Le français, c'est ma vie, c'est ma passion aussi. Donc, je suis professeur de français.
Pour moi, le français, c'est pas seulement un métier. Ça me fait plaisir de travailler, de parler, de partager. Pour moi, le français, c'est tout pour moi.
Comme c'est la première langue étrangère que j'ai appris dans ma vie, pour moi, c'est ce côté de dépasser les limites et d'aller vers les autres.
Quand on parle du français, on parle de la culture, on parle de la civilisation, on parle de tout un monde.
De vive voix.
Pascal Paradou.
800 profs de toute l'Europe et un peu plus sont réunis ici à Bucarest pour parler de français et d'amour pendant 4 jours à l'université Polytechnica qui regroupe 13 facultés, soit à peu près 15 000 étudiants. Et c'est dans la bibliothèque, qui est un bâtiment très moderne, que RFI Roumania a installé son studio mobile qui nous permet de vous parler. Alors un congrès de profs, pourquoi faire ? Question posée à Irina Kosovanou. Bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association roumaine des profs de français. Est-ce que c'est une grosse association ?
En fait, c'est la plus grande association du monde entier.
À ce point ?
Oui. Elle est affiliée à la Fédération internationale des professeurs de français. Elle a été créée en 1990 à Bucarest. Et puis, depuis, on a évolué. Et vraiment, maintenant, elle représente un pilier très important qui soutient le monde professionnel des professeurs de français.
Combien de profs ?
Dans l'association, nous avons à peu près 1500 profs qui sont inscrits.
Qu'en est-il, Irina Kosovanou, du français en Roumanie ? Il est enseigné, on le parle, il y a une grande tradition quand même francophone.
Oui, il a une grande tradition. Il continue à être enseigné. En fait, c'est la seconde langue après l'anglais. Dans certains lycées, il est resté quand même la première langue enseignée, mais dans la plupart, c'est la langue seconde.
Il n'est donc pas saugrenu que ce pays organise le congrès européen. Nous allons aussi en parler avec Jacqueline Owen. Bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association des profs de FLE en Slovénie. Il y a autant de profs en Slovénie ?
Alors, pas du tout. C'est l'exemple contraire. Parce qu'en fait, en Slovénie, on a une centaine de professeurs de français, tous niveaux confondus. C'est-à-dire primaire, secondaire et université. Parce qu'en fait, la Slovénie, c'est un très petit pays. On a 2 millions d'habitants. Et donc, l'association compte environ 45 membres actifs sur les 100 qui enseignent.
Et c'est une langue qui est à la mode, qui a le vent en poupe ou pas du tout ?
Pas tellement.
Vous faites une petite grimace.
Hein. Oui, je fais une petite grimace. Pas tellement. Le français, nos professeurs de français vraiment doivent batailler au quotidien pour attirer les élèves à choisir le français. Parce que, le français, certes, a la réputation d'être une très belle langue, mais qu'est-ce qu'elle est difficile. C'est ce qu'on nous répète à longueur de journée. Et donc, on a évidemment l'anglais, l'allemand, pour des raisons historiques, l'allemand. Et puis, on a l'italien, l'espagnol, qui est très à la mode en Slovénie. Alors, peut-être à cause de la diffusion de ces séries espagnoles qui durent depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'intérêt pour l'espagnol. Et donc, le français, on essaye de le garder à un niveau stable, mais ce n'est pas facile tous les jours pour les enseignants.
Il est donc question de former des enseignants, de former aussi des étudiants, et ça sera l'un des sujets de ce congrès, notamment avec vous, Joséphine Muka-Mureira, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes prof à l'université de Sherbrooke, au Québec, et vous avez tenu ce matin une première conférence sur le mentorat. En deux mots, de quoi s'agit-il ? Ou en trois ?
Le mentorat est une mesure de soutien aux enseignants débutants. Donc, c'est l'une des mesures possibles pour soutenir les enseignants débutants. Mais il semble être une mesure phare, bénéfique sur plusieurs plans, notamment pour le développement professionnel, pour l'apprentissage justement du métier, pour la rétention des enseignants dans la profession.
Et vous avez dit ce matin que c'était un programme, certes expérimental hein, pour l'instant, mais qui s'avère assez efficace. En tout cas, c'est le ressenti de ceux qui pratiquent cette expérience et ce mentorat.
En fait, les personnes qui vivent le mentorat, en fait, au Québec, il faut voir que le mentorat s'est développé beaucoup ces 10 dernières années et que récemment, depuis 2021, il est devenu obligatoire d'offrir le mentorat dans les centres de services scolaires ou les commissions scolaires. Et ce qu'on voit, c'est que à peu près 81% d'enseignants débutants ont accès à ce dispositif-là et qu'à peu près 98% apprécient, perçoivent moyennement et très utile ce dispositif-là.
Donc l'idée, c'est de le généraliser.
L'idée, c'est de le généraliser, mais on sait que c'est un contexte de pénurie d'enseignants et que par conséquent, libérer les mentors, ça devient quand même de plus en plus difficile.
Ce matin, en commençant votre conférence, vous avez dit aux jeunes profs qui ont assisté à cette prise de parole, vous leur avez dit « courage ».
Je leur ai dit courage, je leur dirai toujours courage parce que la profession enseignante s'est complexifiée, intensifiée. La charge de travail est immense. Il y a des attentes multiples de la part de l'employeur, de la part des parents et de la société en général. Et ces attentes sont parfois contradictoires et donc c'est lourd à porter. Et il faut mettre en place en fait de plus en plus des conditions qui assurent une vie professionnelle saine et épanouissante.
En direct de Bucarest, place aux profs de français, mais aussi à ces artistes roumains qui chantent en français. C'est une star ici. Elle a appris le français, soi-disant, pendant le Covid toute seule. Et elle est aujourd'hui sur la playlist de RFI Roumania, Irina Rimes, dis-moi maman.
Qui m'est arrivé, j'ai perdu l'équilibre, j'ai encore trébuché, je ne veux plus de lui, je ne veux plus l'aimer, j'ai rien à te dire, mais j'ai besoin de te parler, je lui chanterai l'amour, je lui ferai la guerre, je ne sais plus qui je suis, à quoi tout ça me sert, je l'aime. Six.
Rimes sur RFI depuis Bucarest pour le 4e congrès des profs de français langue étrangère, Irina Kosonavou. Voilà une artiste qui pourrait sensibiliser les étudiants. Elle fait partie du soft power, comme les séries espagnoles en Slovénie.
Ben, oui, c'est vrai. Et en plus, en parlant de la didactique du français, c'est vrai qu'il faut utiliser surtout les choses qui attirent déjà les jeunes. Et puis la chanson en est une. Il y a aussi d'autres chanteurs et d'autres troupes, comme par exemple Keo, qui va chanter pendant la clôture du congrès. Et c'est vraiment une chose exceptionnelle de pouvoir utiliser leur chanson dans la classe.
Le thème de ce congrès que vous accueillez ici en Roumanie, Irina Kosonavou, c'est « Ensemble en français ». Mais ça veut dire quoi ? Alors d'abord, ça ressemble à un slogan politique très français. « Ensemble », ça fait penser à Macron. Mais dans chaque pays, la situation est différente quand même, non ?
Oui, c'est vrai que dans chaque pays, la situation est différente. Justement, c'est le français qui nous réunit aujourd'hui. Donc, c'est le français qui réunit aujourd'hui beaucoup de pays de l'Europe qui sont présents aussi, mais aussi le Québec, la Tunisie, l'Algérie et beaucoup d'autres pays qui ne font pas partie de l'Europe.
Mais qu'est-ce qui se partage ici dans un congrès de profs comme ça ? Vous savez, c'est comme la chanson de la marquise. Une marquise rencontre une autre marquise. Qu'est-ce qu'elle se raconte des histoires de marquise ? Est-ce que c'est des histoires de profs que vous vous racontez ?
Donc, le congrès, c'est tout d'abord une réunion scientifique. Donc, tout d'abord, on partage et on échange nos pratiques pédagogiques, nos pratiques innovantes. On essaie de répondre à des questions, de trouver des solutions pour améliorer notre démarche, nos démarches didactiques. Et puis, oui, je pense que chacun d'entre nous veut partir de ce congrès avec de nouvelles idées à mettre en pratique, avec un moral plus élevé, avec beaucoup d'optimisme pour pratiquer son métier.
Jacqueline Owen, vous qui êtes une invitée ici en tant que prof slovène, qu'est-ce que vous attendez ?
En fait, oui, je suis là en tant que représentante de l'association slovène, mais pas que. Je suis aussi présidente de la Commission de l'Europe centrale et orientale. Et donc, ces congrès sont d'une importance inouïe pour nos associations de la SECO. Parce que, en fait, ce sont des moments où on se rencontre en chair et en os. Et ces congrès, finalement, donnent un visage vraiment réel à cette francophonie dont on parle beaucoup, sur laquelle on écrit beaucoup. Mais en fait, ce sont des moments où on voit que la francophonie existe effectivement. On a tous les continents, je crois, il y a juste l'Australie qui n'est pas représentée, mais sinon, on a tous les continents. Et donc, c'est vraiment des moments de partage. Et donc, par exemple, pour la commission que je préside, c'est je vois les collègues tellement ravis de pouvoir échanger, de pouvoir. Alors, évidemment, par rapport aux Français, mais aussi au-delà.
Mais c'est une fête ou c'est un moment scientifique ? Parce que Irina parle de congrès scientifique.
Les deux. Les deux, absolument. Et c'est vrai qu'après chaque congrès, qu'il soit régional ou mondial, les collègues, on est tous reboostés, vraiment reboostés.
C'est français, ça reboosté ?
Non, non, c'est pas français. Mais je trouve que, voilà, je m'excuse. Je pense que ça résume bien l'énergie, voilà.
Mais si on parle d'innovation pédagogique, par exemple, qu'est-ce qu'il y a 4 ans, vous avez découvert que vous avez pu mettre en pratique depuis ? Avec quel type d'innovation pédagogique, avec quel type d'expérience vous pensez rentrer dans votre pays ou mettre en application ici en Roumanie ou pour vous, Joséphine, au Québec ?
Ben, en fait, ici, l'expérience est vraiment... Il y a le réseautage d'abord, de faire connaissance avec des personnes qui ont les mêmes préoccupations. Mais c'est aussi un lieu de partage, de savoir, effectivement, d'innovation aussi. Si ce qu'on fait peut profiter, bénéficier à d'autres personnes dans d'autres pays, je pense que c'est une victoire en quelque sorte. Donc, c'est un enrichissement mutuel. Et moi, j'ajouterais l'autre élément très important, c'est le fait de pouvoir créer une communauté autour de la profession enseignante, de faire partie du changement de cette profession. S'il n'y a pas de communauté, que les gens restent isolés on n'avancera pas la profession qui vit présentement des moments difficiles et des conditions qu'il faudrait améliorer. Alors, les innovations, il y a des personnes, des praticiennes qui sont des enseignants, qui ont des innovations pédagogiques pour enseigner le français, mais également des innovations pour soutenir les enseignants de français qui sont débutants.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pédagogie fixe, formelle, formatée, mais que chaque enseignant dans chaque pays, on peut mener des expériences et ces expériences peuvent être partagées, Jacqueline Owen ?
Oui, effectivement. Je pense que, en fait, chacun a son vécu, a son expérience. Et donc, en fait, déjà au travers des ateliers, des interventions, en fait, on peut s'enrichir d'un point de vue personnel. Mais ensuite, en fait, on peut aussi faire part de tout ce qu'on a pu découvrir ou ce qui nous a permis d'améliorer, en fait, notre enseignement pour voir comment ça se passe dans d'autres pays, à d'autres niveaux d'enseignement.
Les pédagogies ont beaucoup évolué sur ces 10 dernières années. Irina Kosonavou.
Oui, c'est vrai, et ça continue d'évoluer, heureusement, parce qu'il faut toujours suivre les tendances de la société actuelle, les tendances non pas seulement du domaine de la didactique, mais les tendances qui changent dans tous les domaines, et il faut s'adapter. En plus, les élèves, les jeunes générations changent aussi. Alors, il faut chercher à adapter nos méthodes à leur goût, à leurs préférences. Et c'est pourquoi il faut toujours un professeur, toute sa vie, doit se former et doit s'adapter. Et puis oui, je pense que le métier est d'autant plus intéressant quand il y a vraiment des choses nouvelles à mettre en pratique.
En tout cas, il est un programme très débattu en cette première journée du Congrès européen de Bucarest. C'est le mentorat. Exemple avec des enseignantes arméniennes, une mentor et une future mentorée.
Aujourd'hui, c'est un défi vraiment partout, y compris en Arménie. Suzanne Karamian, je suis la présidente de l'Association arménienne des enseignants de français. On est devant la difficulté de voir que les jeunes hésitent de plus en plus de choisir le métier de l'enseignant. Ils aiment bien la langue, le français surtout. Ils vont volontiers dans des facultés linguistiques des universités en Arménie. Mais ils finissent, je dis « ils », mais c'est plutôt « elles ». On a plus de jeunes filles que de jeunes hommes qui choisissent cette spécialité. Hésitent après d'aller dans l'enseignement. Je vais vous dire, on a eu peut-être deux étapes. Il y avait des moments où, au contraire, c'était difficile de trouver un poste d'enseignant. Maintenant, on est devant le fait qu'on a des difficultés de trouver vraiment des enseignants.
J'espère bien que je vais aller être mentorée grâce à notre association des profs de français. Je suis Hranush Gurginian et je suis une enseignante d'Arménie. De cette expérience, j'attends une possibilité de comprendre mieux mes élèves pour que je puisse enseigner plus efficacement, parce qu'aujourd'hui, on comprend bien qu'avec le développement de nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, il faut que nous aussi nous développions et que nous puissions aider nos élèves, nos apprenants à ouvrir leur potentiel et d'apprendre avec un grand plaisir.
Voici un duo qui est au cœur de votre démonstration, Joséphine Mukamurera. Vous qui avez travaillé sur ce programme, qu'attendent les jeunes profs en priorité qui se lancent pour être mentorés? Là aussi, c'est un néologisme, hein, ça n'existe pas en français ce mot-là de mentorer.
Selon les recherches que j'ai menées au Québec, la première chose ou parmi les premières choses, les mentorés souhaitent des personnes qui peuvent les aider à développer leur autonomie professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui va les écouter, qui peut conseiller, mais qui va questionner et leur permettre de se développer eux-mêmes, de développer leur propre style, leur propre identité. Ils ont aussi besoin d'un mentor ou d'une mentor qui a des compétences en accompagnement. Donc, les compétences humaines, puis en accompagnement, parce que quelqu'un qui maîtrise bien le français ne veut pas dire que ça transformera du jour au lendemain en quelqu'un qui est capable d'accompagner un jeune enseignant. D'où l'importance, justement, de la formation et de leur propre développement professionnel.
Cela signifie que les jeunes profs se sentent un peu seuls, parfois, au début de leur carrière, en tout cas.
Ah oui, 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 oui. Toutes les recherches qu'on a menées depuis les années 90 montrent que, dans ce temps-là, les enseignants se sentaient comme parachutés, sans filet de sauvetage. Et donc, de plus en plus, justement, le travail a consisté à essayer de sensibiliser aux réalités qui sont vécues par les jeunes enseignants. En fait, le choc de la réalité, parce que la formation initiale ne peut pas faire des enseignants qui sont compétents sur tout et qui ont des compétences vraiment achevées. Ils ont un seuil d'entrée et ont besoin d'être soutenus, guidés, accompagnés, aussi bien dans l'entrée dans le milieu scolaire qui a ses propres règles, mais aussi dans l'apprentissage continu du métier.
Ce que vous racontiez ce matin lors de votre conférence, Joséphine Mukamurera, c'est qu'en fait, c'est un métier multitâche. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre une langue, mais il faut être aussi infirmier, savoir parler aux parents, enfin tout faire, quoi.
Il faut savoir écrire aux parents, communiquer avec eux. Et il faut savoir prendre soin des enfants sur le plan un peu de la santé. S'il y a un élève qui se blesse, on ne va pas le laisser, on va s'en occuper. Donc, on est infirmier, on est pompier quand les jeunes se bagarrent aussi. Alors, on est multitâche, multirôle, multichapeau. Et ça ressort tout le temps dans les entrevues qui sont réalisées avec des enseignants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus expérimentés.
Mais on ne parle plus du français, là. On ne parle plus de la langue, on ne parle plus de l'amour de la langue. On parle du métier, vraiment.
Oui, on parle du métier et son métier, c'est à la fois la connaissance de la discipline, c'est à la fois la connaissance de l'enfant, c'est à la fois l'éduquer, c'est à la fois l'orienter pour son avenir et c'est à la fois créer un climat favorable à l'apprentissage. Et c'est donc beaucoup, beaucoup de choses qui sont pertinentes quand même. Puis on est face à des humains, on ne peut pas s'adresser à un humain comme si on s'adressait à une matière inerte. Il faut jouer sur les sensibilités, sur les émotions. Les gérer.
Est-ce que vous donnez aussi des astuces, d'une certaine façon, pour expliquer que le français, certes, c'est un peu difficile, mais pas si difficile que cela?
Comme le disait le collègue, le français est perçu comme étant une langue difficile par les jeunes élèves. Mais le travail de l'enseignant, justement, c'est de faire découvrir la beauté de la langue, de faire montrer qu'avec les outils, avec les moyens, avec les stratégies d'apprentissage, on peut arriver à la maîtriser. Et je suis très, très contente. Moi, au Québec, dans le référentiel de compétences, on a mis une compétence numéro 8 qui est donner le plaisir d'apprendre. Et ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on apprenne dans le plaisir. Il faut qu'on apprenne les choses qui font du sens pour les élèves. Et ça, c'est tout un travail pour planifier et trouver les situations d'apprentissage.
Alors, ce programme reste encore expérimental. Il est mis en place dans un certain nombre de pays. Il y a eu des exemples qui ont été donnés ce matin, qui seront développés au cours de ce congrès, notamment en Tunisie, avec le soutien du gouvernement, ou encore au Bénin, ou dans d'autres pays où l'Institut français s'implique. C'est important aussi de mobiliser tous les acteurs pour former ces enseignants et finalement préparer la francophonie de demain.
C'est tellement important de s'unir, d'unir les forces pour préparer la relève enseignante. La profession enseignante fait face à un défi important, une crise majeure de pénurie du personnel enseignant. L'UNESCO estime à un manque de 44 millions d'enseignants d'ici 2030 pour offrir l'école primaire et secondaire universitaire aux jeunes. Et par conséquent, si la profession continue de se vider ou d'être très difficile, sans soutien, eh bien, on n'y arrivera pas. Alors, le fait d'être en association, en groupe, c'est de créer une communauté solide qui participe à ce changement.
Irina Kosonna, vous enseignez le français, faire exister cette langue dans le monde. Est-ce que c'est une histoire militante ou c'est juste une histoire d'amour?
Les deux, je dirais. Une histoire militante, mais aussi une histoire d'amour. Pour moi personnellement, c'est aussi une histoire d'amour, mais en tant que présidente de l'association, ça fait déjà 12 ans que je suis présidente, c'est aussi militant. Toutes les actions qui sont faites, y compris ce congrès, c'est pour militer, c'est pour montrer au monde entier que le français est une langue d'avenir et que les jeunes ont de l'avenir en apprenant le français.
Mais alors moi, j'aime bien qu'on me parle d'amour. Donc comment vous êtes tombée amoureuse de cette langue ?
Je dois vous dire que sous le régime communiste, parce que j'ai fait l'école pendant ce temps-là, le français, on l'apprenait à l'école. C'était la première langue étrangère. Mais comme les émissions en langue étrangère étaient interdites, Moi, quand j'ai écouté, quand j'ai appris à l'école le français, je suis tout de suite tombée amoureuse. Ça a été un coup de foudre. Et pour l'entendre, parce qu'il n'y avait pas d'émission à la télé, on ne pouvait pas entendre le français, je cherchais des postes de radio qui étaient interdits à cette époque-là, en cachette, pour pouvoir entendre le français.
Donc j'étais, RFI
ouais, parmi lesquels RFI, bien sûr.
Alors, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire aussi administrative et universitaire. Anna Harrison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à RFI Roumania. On a longtemps parlé des intellectuels roumains qui étaient francophones. On pense à Ionesco ou à Sioran. Il y en a toujours. Vous d'ailleurs, puisque vous écrivez, vous êtes écrivain et vous écrivez en français. Malgré tout, aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup des médecins roumains francophones. De quelle transition s'agit-il ?
Il s'agit du fait qu'en Roumanie, les Français, ils ont trouvé des programmes, des universités, parce que apparemment, il y a pas assez de places en France pour que tout le monde soit formé. Donc, ils ont trouvé des solutions en Roumanie. Et il y a en Roumanie des filières très importantes dans les universités de médecine humaine comme vétérinaire. Et pas seulement à Bucarest. Dans tout le pays, dans toutes les grandes villes de la Roumanie, il y a des Français qui apprennent la médecine. Et ça, ce n'est pas la seule filière.
Et ce sont des diplômes reconnus hein, de part et d'autre. Oui. C'est ça qui est important.
Oui, ce sont des diplômes reconnus. Et nous sommes ici à la Polytechnica de Bucarest, qui est un des endroits les plus francophones que vous pouvez retrouver. Il y a beaucoup formations en français, double diplôme, des diplômes qui sont reconnus en France. Donc les étudiants, ils peuvent venir, ils peuvent étudier et après, ils peuvent pratiquer leur métier en France. Le recteur peut vous expliquer, il va nous expliquer plus tard tous les diplômes qu'on peut trouver ici. Il y a une maison de la francophonie dans le campus. Donc, il y a des gens qui peuvent venir faire des tests de doctorat, ils peuvent dormir sur place. Donc, vous êtes dans un endroit universitaire très, très francophone.
Merci, Anna. Donc, ça, c'est assez encourageant quand même, Irina. La Roumanie, finalement, c'est pas un hasard s'il y a tant de profs de français. La Roumanie reste un espace francophone très marqué. Très important.
Oui, c'est vrai. Il y a aussi un réseau de lycées bilingues qui existe dans plusieurs villes de Roumanie et qui ont reçu aussi le label qualité de la part de l'État français. Il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves qui finissent les cours du lycée et qui vont étudier à l'université en France ou dans un autre pays francophone. Donc, on n'est pas tellement découragé que ça. Et je pense que le français a de l'avenir en Roumanie.
Merci beaucoup à vous tous, à vous toutes plutôt, Anna Harrison, Irina Kosovanou, Jacqueline Owen et Joséphine Mukamurera. Vous êtes toutes mobilisées pour ce 4e congrès de la FIPF qui se tient jusqu'au 7 septembre. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation, avec à ses côtés Edouard Vasilike de RFI Roumania qui nous accueille le temps de ce congrès. Et bien sûr, vous retrouverez Adrien Delgrange qui est avec nous à Bucarest. Reste pour le journal en français facile, qui est un outil formidable pour apprendre le français ou se perfectionner. À demain en français dans les oreilles.